22.
Le train s'ébranla de nouveau et Luke se remémora une chanson que lui chantait sa grand-mère. Était-ce celle qui parlait du Midnight Special? Il ne s'en souvenait plus. Les miettes de donut n'avaient servi qu'à aiguiser sa faim et à attiser sa soif. Sa bouche était un désert et sa langue une dune de sable. Il s'assoupit sans parvenir à s'endormir. Les heures passèrent, il n'aurait su dire combien, puis les premières lueurs de l'aube commencèrent à filtrer à l'intérieur du wagon. Luke rampa sur le plancher qui tanguait jusqu'à la porte entrouverte pour regarder dehors. Il vit défiler des arbres, des pins décharnés essentiellement, des forêts secondaires, des bourgades, des champs, encore des arbres. Lorsque le train traversa un pont de bois, Luke regarda avec envie le cours d'eau en contrebas. Cette fois, ce ne fut pas une chanson qui lui vint à l'esprit, mais un poème de Coleridge. De l'eau, partout de l'eau. Les planches du wagon rétrécissaient. De l'eau, partout de l'eau. Et pas une goutte à boire. Sans doute était-elle polluée de toute façon, songea-t-il. Tout en sachant qu'il la boirait quand même. À en avoir le ventre gonflé. Et la vomir serait un plaisir, car alors il pourrait encore en boire. Juste avant que le soleil se lève, rouge et chaud, il sentit le goût du sel dans l'air. Le long de la voie ferrée, les fermes avaient cédé la place à des entrepôts et à d'anciennes usines de briques rouges aux fenêtres murées. Des grues se cabraient dans le ciel qui s'éclaircissait. Non loin de là, des avions décollaient. Le train suivit pendant quelque temps une route à quatre voies. Luke apercevait dans les voitures des gens qui n'avaient d'autres préoccupations que leur journée de travail. Lui parvenaient maintenant des odeurs de vase ou de poisson mort, ou les deux. « Je pourrais manger un poisson mort, » pensa-t-il, « s'il n'y avait pas trop d'asticots. » Peut-être même que si. D'après le National Geographic, les asticots étaient une excellente source de protéines. Lorsque le train commença à ralentir, il regagna sa cachette. Le wagon tressauta en franchissant les aiguillages. Enfin, le convoi s'immobilisa. Malgré l'heure matinale, c'était un endroit animé. Luke percevait des bruits de camions, des hommes qui riaient et bavardaient. Un ghetto blaster ou un puissant autoradio diffusait du Kenny. Les basses ressemblaient à un battement de cœur qui s'emballe puis ralentit. Une locomotive passa sur une autre voie en lançant dans son sillage une forte odeur de diesel. Plusieurs secousses violentes se produisirent lorsque des wagons furent attelés ou dételés. Des hommes criaient en espagnol. Luke saisit quelques injures. « Puta mierda, hijo de puta, chupapoyas. » Une heure encore s'écoula. Mais peut-être n'était-ce qu'un quart d'heure. Finalement, un autre camion recula jusqu'au wagon Southway Express. Un homme en salopette ouvrit la porte en grand. Luke jeta un coup d'œil entre deux engins. L'homme sauta à bord et une autre rampe fut tirée entre le camion et le wagon. Cette fois, c'était une équipe de quatre hommes, deux blancs et deux noirs, costauds et tatoués. Ils riaient et parlaient avec un fort accent sudiste. Luke avait l'impression d'entendre ces chanteurs de country que diffusait la station Bezen 102 à Minneapolis. Un des blancs raconta qu'il était allé danser la veille au soir avec la femme d'un des noirs. Celui-ci fit mine de le frapper et le blanc fit mine de reculer en titubant. Il s'assit sur la pile de cartons contenant des moteurs de hors-bord récemment refaites par Luke. « Allez, maniez-vous !» dit l'autre blanc. « J'ai envie d'aller prendre mon petit-déj. »
« Moi aussi, » se dit Luke. « Oh oui, moi aussi. »
Quand ils commencèrent à transporter les caisses scolaires à bord du camion, Luke eut l'impression d'assister au film de l'arrêt précédent, mais à l'envers. Et cela lui fit penser à ceux que les enfants envoyés à l'arrière étaient obligés de regarder, à en croire Avery. Des films qui faisaient réapparaître les points lumineux. De gros points bien juteux. La porte du wagon tressaillit sur son rail, comme si elle voulait se fermer toute seule.
« Ouah !»
s'exclama le second noir. « Qui est là ?» Il regarda autour de lui. « Personne. »«
C'est le croque-mitaine !» dit le premier noir, celui qui avait fait semblant de frapper le blanc.
« Allez, on se dépêche. Le chef de gare a dit que le train était en retard sur son horaire. »«
Ce n'est toujours pas le terminus, » pensa Luke. « Je ne resterai pas enfermé dans ce wagon jusqu'à ce que je meure de faim. » Uniquement parce que je serais mort de soif avant.
Il avait lu quelque part qu'une personne pouvait tenir au moins 3 jours sans boire avant de sombrer dans l'inconscience qui précède la mort. Mais ce n'était pas du tout ce qu'il ressentait. Les 4 hommes avaient chargé toutes les grosses caisses dans leur camion, sauf 2. Lorsqu'ils s'attaqueraient aux petits engins à moteur,
Luc savait qu'il le découvrirait, mais au lieu de cela, ils repoussèrent la rampe à l'intérieur du camion et refermèrent le haillon.
« Je vous rejoins, les gars !» dit un des deux blancs, celui qui affirmait être allé danser avec la femme d'un des noirs.
« Faut que j'aille faire un tour aux chiottes pour poser ma pêche. »«
Retiens-toi, Matty. »«
Impossible. Je vais faire une si grosse merde que je vais devoir descendre en rappel. »
Le camion démarra et repartit. S'ensuivit un moment de silence. Puis le dénommé Matty remonta à bord du wagon. Ses biceps gonflaient les manches de son t-shirt. Rolf Destin, l'ami de Luc dans une autre vie, aurait dit « La messe est dite ».
« Ok, le hors-la-loi. Je t'ai vu quand je me suis assis sur les cartons. Tu peux sortir de ta cachette.